J'ai des souvenirs d'enfance qui me reviennent. Je crois que c'est le privilège d'arriver à un âge où maintenant on ne nous dit plus trop jeunes. Et donc, quand je pense au dimanche des Rameaux, dimanche de l'entrée où on se commémore l'entrée de Jésus donc à Jérusalem, je me rappelle justement aussi mon enfance avec mon parcours dans une famille catholique. Là encore, ce n'est pas pour critiquer, mais car je pense que j'avais une grande part de responsabilité dans cela, c'est que le seul souvenir que j'ai de ce dimanche des Rameaux, c'est la fameuse branche d'olivier qu'on devait à tout prix amener à l'église pour qu'elle soit bénie. C'est triste que j'ai que ce seul souvenir. Après, le seul autre souvenir que j'ai, c'est que cette branche, je la voyais toute l'année après, dans ma chambre, sur un tableau qui représentait l'ange Gabriel qui gagnait le dragon. Je me rappelle encore de ce tableau. Et il était tout petit, heureusement. Il y a de quoi faire des cauchemars, sinon, peut-être, en tant qu'enfant. Et le brin était dessus, quoi. Le brin était dessus. Et en fait, il y a une superstition, hein, il faut le reconnaître, c'est une superstition. C'est que le brin est sujet, vu qu'il a été béni par le prêtre, il est sujet à nous protéger. À nous protéger. C'est terrible, hein, de garder que ça du dimanche des Rameaux. Donc, il y a bien des belles choses qui peuvent être dites dans ce dimanche des Rameaux. Je vous propose justement d'en dire quelques-unes ce matin. Et pour cela, de regarder deux textes bien connus. Le premier se trouve dans l'évangile de Jean, l'évangile selon Jean, le premier chapitre. Et puis nous reculerons un petit peu dans les évangiles pour voir Matthieu. Mais d'abord Jean, qui sera le passage qui va donc être complémentaire de ma deuxième lecture qui décrit l'entrée de Jésus à Jérusalem. On ne va pas lire tout le prologue, c'est-à-dire les 18 premiers versets du chapitre 1, mais les versets 1 à 5, et puis on sautera un petit peu au verset 9 jusqu'au verset 18. Jean donc 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Un peu plus loin, verset 9. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. On retrouve, hein, je suis le chemin, la vérité et la vie, hein, dans ce passage. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, Jean-Baptiste, et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Et puis, regardons donc le deuxième texte dans Matthieu 21, qui est un des textes des quatre évangiles qui, chaque évangile raconte cette entrée plus ou moins longuement de Jésus à Jérusalem, et Matthieu l'a décrit assez bien aussi. Matthieu 21, et nous lisons les versets 1 à 11. Lorsqu'ils, c'est-à-dire Jésus et les disciples, approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or ceci arriva afin que s'accomplisse la parole du prophète. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules précédaient et suivaient Jésus en criant « Hosanna, au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi et l'on disait « Qui est celui-ci » Les foules répondaient « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous propose ce matin de voir en premier donc, que la venue du Seigneur Jésus est marquée par deux entrées, dont donc, la première démarre, Sam, tu peux mettre l'autre derrière. Donc la première démarre sa venue dans ce monde, et puis la deuxième entrée la termine. Puis que cette entrée triomphale fait plus ressortir le rejet de Dieu et du Seigneur dans le cœur des hommes. On va voir cela aussi. Et encore, nous allons voir que ce cortège entrant avec Jésus à Jérusalem, avec ses proclamations, eh bien, il devance l'honneur qui lui est dû à notre Seigneur en raison de ce qu'il va faire en donnant sa vie sur la croix. Et ce cortège, on le verra aussi, est un signe précurseur d'un futur cortège, d'un autre cortège, un cortège d'honneur qui sera fait d'hommes, qui plieront alors leurs genoux en proclamant que Jésus est Seigneur. Les deux entrées donc de la venue du Christ Jésus. Nous voyons donc en premier donc, ces deux entrées de la venue du Seigneur Jésus. En lisant ce texte de l'entrée du Seigneur Jésus à Jérusalem, nous pouvons penser à une deuxième entrée de notre Seigneur qui est aussi remarquable. Celle-là, elle est déjà bien remarquable, mais la deuxième est aussi remarquable. On peut dire que la venue du Seigneur Jésus est marquée par deux entrées, on pourrait dire, et même trois, mais je ne vous en parlerai que de deux. Cette entrée à Jérusalem a lieu le premier jour de la semaine, ce que nous venons de lire, qui se terminera donc, on le sait, par l'arrestation, le jugement, le sacrifice et la résurrection de Jésus. À la suite de cette semaine, le Christ ressuscitera et donc il ne sera plus avec ses disciples que quelques fois dans ces 40 jours qui suivront la résurrection avant d'être élevé, l'ascension donc au ciel. Ainsi se termine la première venue donc du Seigneur sur notre terre. Mais celle-ci a commencé par une entrée. Cette entrée que Jésus a faite sur cette terre en tant que fils de Dieu incarné en homme. Et c'est pour ça que nous pouvons regarder, je vous ai fait lire donc Jean 1. À sa naissance, Jésus fait son entrée dans ce monde. Et l'apôtre Jean écrit alors dans ce passage, ces 18 premiers versets, qu'il est venu. Ce fils de Dieu, ce Seigneur est venu chez les siens, en parlant donc des Juifs, mais les siens ne l'ont pas reçu. Jean 1, verset 11. Ainsi, le Fils de Dieu vient en s'incarnant comme l'homme parmi le peuple avec qui Dieu avait fait alliance. Mais dès le début, Jésus n'a pas eu l'accueil. C'est clair, dès le début, quand on lit les évangiles, Jésus n'a pas eu l'accueil qu'il aurait dû avoir. Alors qu'il est la parole créatrice, on ne va pas trop d'écrire ce prologue, il y a tant à dire, mais alors qu'il est cette parole créatrice qui a été à l'origine de toute chose, de ce monde, alors qu'il est décrit comme la source de la vie, qu'il est la véritable lumière qui seule peut éclairer ce monde et le cœur des hommes, qu'il est aussi celui donc, qui vient faire connaître Dieu le Père. Alors comment celui qui est décrit ainsi dans Jean 1, comment lui qui est le Fils de Dieu, comment ne méritait-il pas que l'on déroule alors tous les tapis rouges pour tracer son chemin? il le méritait largement. Devant lui, dès le début, tout genou aurait dû fléchir. Il aurait dû être acclamé avec tous les honneurs par tous les hommes, et les portes auraient dû s'ouvrir et même s'agrandir pour le recevoir. D'autant plus qu'il venait aussi pour nous sauver, nous dit donc les Écritures. Paul le rappelle à Timothée, c'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. Entendez bien cette parole, elle doit être reçue. Et qu'est-ce qu'il écrit à la suite? Que le Christ Jésus est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Il n'est pas venu pour autre chose. Il est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Et tout ça donc, est accompagné de bien d'autres choses, en manifestant donc son Père, hein, etc., etc. Mais c'est dans ce but-là, être le sauveur. Mais en lisant donc les évangiles, on découvre que le Fils de Dieu incarné a eu peu de manifestations honorifiques dignes de sa personne, de son rang et aussi de la mission qu'il a acceptée et qu'il allait accomplir. Il y a eu certes au début, on le sait, l'adoration des bergers, puis les honneurs et les cadeaux des mages dus à son rang. Il y a eu aussi la louange d'un vieux croyant ainsi que d'une veuve âgée. Mais ce fut là aussi avec Marie et Joseph, les seuls et peut-être quelques-uns que l'Évangile ne rapporte pas, qui le reçurent et reconnurent en partie donc ce qu'il était, pour ce qu'il était. De plus, son entrée dans ce monde est très peu saluée par des phénomènes donc terrestres. Seul le ciel donne un signe, donc une étoile qui se met à briller assez pour pouvoir dire, pour pouvoir être un présage, un signe pour les mages, percevant à elle qu'un roi est né. Mais seul ce petit groupe d'hommes verra dans le scintillement de cette étoile d'Orient le signe de la venue, de l'entrée dans ce monde d'un grand roi. On voit donc combien déjà, ce que dit Jean dans Jean 1, les ténèbres régnaient et déjà faisaient leur effet dans le cœur des hommes. Donc ces ténèbres empêchaient les hommes de voir donc que celui qui vient vraiment de la part du Seigneur, et il est bien le Fils de Dieu qui vient pour être le Sauveur. Ainsi, seul le ciel se manifeste par cette étoile et les anges. Ces derniers saluent cette venue avec un concert angélique qui se fera entendre sur cette terre, seulement de saints bergers, mais qui retentira dans tous les cieux jusqu'au trône de Dieu. Mais à part cela, qui est grandiose, tout le reste reste d'une simplicité et donc d'une petitesse. En regardant cette première entrée, nous pouvons comprendre comment le ministère de Jésus sera alors accueilli tout le long, donc parmi les hommes. Seuls quelques disciples vont le suivre. Car si la foule qui a entouré Jésus était par moments d'une multitude de personnes, car c'était le cas bien souvent, peu resteront avec lui et peu le recevront comme il se doit. Son ministère est bien résumé par Jean. Dans Jean 1, il est venu chez les siens. Et ils ne l'ont pas reçu. Il est venu chez les siens et ils ne l'ont pas reçu. Alors que penser aussi de cette entrée triomphante de Jésus dans Jérusalem que nous avons lu dans Matthieu 21? En premier, nous pouvons faire le même constat, car si on peut se réjouir de voir l'accueil de Jésus par cette foule qui vient à lui, alors qu'il entre en Jérusalem, qu'il acclame, qu'il honore, on sait qu'une autre foule, quelques jours après, dans cette même ville, rejettera Jésus en demandant sa mort à Pilate. Cette entrée à Jérusalem sera bien celle qui l'amènera à être arrêté, jugé, châtié. Mais parce qu'il était donc la lumière qui est venue pour éclairer les hommes, mais les hommes ne l'ont pas voulu, aimant plus les ténèbres qui régnaient dans leur cœur. Jésus est certes donc honoré ici et acclamé, mais ce cortège d'accueil peut être jugé comme bien superficiel, vu que ce qui va arriver peu de temps après et donc va pas empêcher, enfin que ce qui va arriver après, donc on verra bien que c'est pas cette proclamation, c'est pas tous ces gens qui étaient là qui vont empêcher donc l'autre foule de dire, donc, crucifie-le à mort. Pourtant, ce cortège acclame Jésus. Et il fait même, donc, il reconnaît même en Jésus qu'il est le fils de David, qu'il est bien donc le descendant royal. Il le proclame même comme le roi. Il lui est proclamé, qu'il est bien celui qui vient au nom du Seigneur. Il y a aussi ce hosanna qui est très important dans cette proclamation, qui signifie, vous le savez, je pense, sauve de grâce, sauve de grâce. Mais cette reconnaissance, ce chaleureux et juste accueil, cette juste attente, sauve de grâce, ne dureront pas. Car le Seigneur subira l'abandon quelques jours plus tard par cette foule. Certainement dans cette foule, il y avait des nouvelles personnes qui seront devant Pilate pour réclamer sa mort, certainement. Mais il y aura certainement des gens qui étaient là pour l'accueillir et qui sont à ce moment-là laissés influencer aussi par donc, ceux qui voulaient la mort de Jésus. Ainsi, le cœur des hommes qui ne veut pas recevoir la lumière et le pardon de Dieu par son Fils Jésus se manifeste, même donc, quelques jours après cette entrée donc triomphante. Cela nous enseigne une leçon. C'est que c'est une chose de proclamer et de confesser qui est Jésus, et c'est une autre de véritablement l'accueillir comme il devrait l'être. Et c'est intéressant, sans que j'en parle un mot à Nicolas, je pense que c'est un peu aussi ce qu'il a dit ce matin. Donc on proclame, on dit, il est le seul chemin, et après on ajoute quelque chose à côté. C'est le cœur de l'homme qui est tortueux et qui accepte malheureusement donc des choses qui n'honorent pas Dieu et qui font qu'on ne le reçoit pas comme il faudrait, qu'on ne reçoit pas le Seigneur comme il faudrait. Le Seigneur a mis en garde qu'il y aura même des personnes qui lui diront « Seigneur, Seigneur !» et qui ne connaîtra pas parce qu'elles n'auront pas fait la volonté de son Père, Matthieu 7, 21. Et cette volonté de son Père, nous la connaissons, c'est que l'on connaisse réellement Jésus comme quoi ? Comme le Seigneur, mais aussi le Sauveur de notre vie. Et donc nous devrions être conséquents avec ce que nous disons de Jésus et proclamons par nos prières, par nos chants. Si nous disons que Jésus est bien notre Sauveur, alors nous devons le laisser faire en nous son œuvre de salut par son Esprit. Et comment nous le faisons ? En rejetant donc ce qui ne l'honore pas, qui peut être encore dans nos vies, et aussi en criant à lui « Sauve de grâce ! Sauve de grâce !» Car c'est lui qui nous transforme par son Esprit et sa parole. Si nous disons qu'il est notre Seigneur, nous devons rechercher sa volonté pour la faire, quelle qu'elle soit. Et c'est pourquoi il est très important, et merci encore Nicolas, je rebondis pratiquement sur ce que tu as dit ce matin, de sonder nos cœurs, de nous arrêter des fois de réfléchir, sondons nos cœurs, pour ne pas accepter que s'installe en nous un accueil de Jésus, mais alors du bout des lèvres, parce qu'il est bienvenu pour être vraiment le Sauveur et le Seigneur de nos vies. Lui, le Fils de Dieu qui vient au nom de ce même Dieu. Jésus vient à nous. Alors comment le recevons-nous ? Comment le recevons-nous ? Prenons garde de ne pas lui fermer notre cœur et de lui dire ainsi que nous ne voulons pas de lui, mais plutôt ouvrons alors la porte, pas de Jérusalem, mais de notre cœur, de notre vie, et disons-lui qu'il est pour nous le Sauveur que nous voulons et le Seigneur que nous voulons accueillir. Mais que dire encore de cette entrée triomphante de Jésus dans Jérusalem ? Ce cortège, je crois, d'honneur est le prémisse de la gloire qui sera donnée à Jésus par la suite. On pourrait voir plus positivement dans ce cortège d'honneur les prémices de la gloire qui seront données à Jésus par la suite, par ceux qu'il rachètera par son sacrifice. Jésus sera aussi béni pour l'éternité par ceux qui le reconnaîtront comme le roi qui est venu au nom de Dieu pour les sauver. Ce cortège entrant avec Jésus à Jérusalem avec ses proclamations devance cet honneur qui lui est dû pour ce qu'il va faire à la fin de cette semaine sur la croix. Et il va sauver par grâce, sauve de grâce. Et il répondra à cette proclamation et cette prière, je l'espère, de quelques-uns qui étaient là. Sauve de grâce, en mourant sur la croix. Dans ce cortège d'accueil pour recevoir Jésus, certains étendent leurs vêtements et des branches de palmiers ou des rameaux, certainement d'oliviers, devant lui pour lui faire une sorte de tapis d'honneur. Il n'y avait pas des tapis rouges à ce moment-là. Dans ce temps-là, le vêtement, il faut se le rappeler, avait une grande valeur au point que l'on usait ces vêtements, ne pouvant pas les remplacer aussi facilement qu'aujourd'hui. Et de ce fait, on ne jetait pas un vêtement par terre. Et si on le jetait, c'était pour une bonne raison. Et donc, le fait de jeter par terre donc, leurs vêtements était vraiment pour dire ce que nous avons de valeur, nous voulons vraiment donc te le donner parce que tu es digne de tout honneur et de tout ce que nous avons. Bien sûr, aujourd'hui, nous ne jetons pas nos vêtements devant Dieu. Mais il attend d'autres choses de notre vie. Il attend que nous proclamions par notre vie, par nos corps, par nos lèvres, qu'il est vraiment digne. Et c'est le tapis qu'il attend que nous déroulions devant lui. Il est digne d'être notre sauveur. Il est digne de notre Seigneur. L'apôtre Paul donc écrit « Je vous exhorte donc, frères, et on l'aurait pu écrire « et sœurs », vous le savez bien, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Romains chapitre 12, verset 1. Donc cette reconnaissance par ces personnes qui accueillent le Seigneur Jésus, soulignant qui est Jésus, lui, le fils de David, le Seigneur Jésus qui donc sauve de grâce, qui est digne alors, et cela est aussi le signe de ce qui se passera au-delà de ces honneurs donnés encore aujourd'hui par ses rachetés, par les membres de son Église, qu'il a acquis par son propre sang. C'est un premier témoignage de ce qui se fera un jour, tôt ou tard, où le Christ Jésus sera reconnu alors comme Seigneur, mais aussi Sauveur par tous les hommes, et ceux-là qui le veulent ou non. Cette reconnaissance de sa royauté, de sa seigneurie, de son œuvre de salut se manifestera alors par un cortège d'honneurs, un cortège d'hommes, de femmes, qui alors plieront leurs genoux donc, et proclameront que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, comme cela est souligné au chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens. Oui, un jour il y aura ce cortège, et là toute personne, toute langue, confesseront que Jésus est bien le Seigneur. Combien alors, nous qui connaissons le Seigneur déjà, nous serons de ces bienheureux, car nous serons de ceux qui proclameront, pas parce que nous sommes obligés de le faire, mais de tout cœur, donc que Jésus est non seulement le Seigneur, mais aussi le Seigneur de notre vie, à la gloire de Dieu. Cela sera donc un sujet, notre sujet de reconnaissance éternelle. Notons encore, pour terminer, que dans cette proclamation de la foule, de ce qui est demandé, avait décrit par ce Hosanna, c'est ce que Jésus vient accomplir dans cette ville. En effet, on lui demande qu'il fasse grâce en sauvant. En lui adressant ce Hosanna, c'est ce qu'il fera donc en acceptant d'être jugé et châtié jusqu'à la mort, afin de mourir pour nos péchés et offrir son salut par grâce à ceux qui lui demanderont de le sauver, donc de grâce. Alors oui, soyons de ceux qui, encore disant à notre Dieu, à notre Seigneur Jésus, Hosanna, Hosanna, sauve de grâce, sauve-nous de grâce, parce qu'il faut se rappeler que notre salut a été une fois pour toutes donc établi quand nous sommes tournés vers Jésus et nous l'avons reconnu comme Sauveur et Seigneur, mais ce salut continue à se manifester en nous, en nous sanctifiant, en faisant de nous des hommes et des femmes à la gloire de Dieu. Et cela demande encore de notre part de lui dire, je le veux Seigneur, sauve-nous de grâce, sanctifie-nous, aide-nous à vivre à ta gloire, à te ressembler. Alors pour conclure, quand nous lisons encore l'Épître aux Hébreux, on aurait pu le lire, il est aussi question d'une entrée du Seigneur Jésus, celle dans le sanctuaire céleste. Et je cite Hébreux 9, verset 24, afin de se présenter pour nous devant la face de Dieu et de pouvoir nous inviter nous-mêmes à nous présenter au trône de la grâce, au sanctuaire divin, car nous y avons un libre accès auprès du Père céleste par celui qui est revenu avec les traces de son sacrifice pour nous dans son corps. Alors, l'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, inspiré par le Saint-Esprit, ne peut qu'alors nous inviter et nous dire « approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Et pourquoi dit-il cela ? Il ajoute « confessons notre espérance sans fléchir en Jésus. » Oui, confessons notre espérance en Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il est bien le Fils de David qui sauve. Et parce que oui, cette prière Hosanna de grâce, elle est notre prière Hosanna, sauve de grâce. Et quand nous prions cela, nous l'accompagnons donc de notre louange, car il est digne d'être béni celui qui vient au nom du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, nous te bénissons pour Jésus, celui que tu nous as donné comme Sauveur et Seigneur. Nous te bénissons qu'en entrant à Jérusalem, il savait ce qu'il allait vivre donc dans les jours qui vont suivre. Et merci que malgré cela, il est rentré pleinement. Malgré cela, il est allé jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce que donc, comme toi, oui, il désire tant nous sauver. Il désire tant nous sauver. Il désire tant que nous soyons avec lui. Donc, que nous soyons celui qui règne dans notre cœur. Oh, merci parce que quand tu fais cela, alors nous vivons à ta gloire, mais aussi pour notre bien. Alors oui, Seigneur, sauve de grâce, béni sois-tu. Oui, toi qui viens au nom de notre Dieu. Amen.